Ce matin, nous commençons une nouvelle thématique sur le livre des Proverbes qui se trouve dans une partie de la Bible qu'on appelle les livres de la sagesse. Et là-dedans, on a Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Et la thématique s'intitule « Mieux vivre » parce que les Proverbes renferment des sages conseils sur vraiment différents thèmes, différents sujets, c'est vraiment diversifié. Et tout au long de la série, nous allons justement aborder toutes sortes de sujets très pratiques comme la paresse, l'honnêteté, comment mieux gérer nos paroles, toutes sortes de choses utiles et pratiques. Mais ce matin, j'introduis la série avec vous parce que on va voir vraiment ensemble la première étape, en fait, le premier pas sur le chemin de la sagesse. On fait le premier pas ensemble aujourd'hui. Et le livre, en fait, c'est un recueil de proverbes, OK? Donc, c'est écrit par différents auteurs, dont Salomon. Et les 9 premiers chapitres sont plutôt écrits sous forme de texte, mais par la suite, du chapitre 10 au chapitre 29, c'est vraiment des petites phrases. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre des proverbes? Quelques-uns, hein, quand même. Donc, c'est vraiment des petites phrases qui sont écrites, des proverbes un après l'autre, qui n'ont pas nécessairement de suite logique, OK? On passe vraiment du coq à l'âne, d'un sujet à l'autre, un à la suite de l'autre. Quand on lit les proverbes d'une traite, là, certains pourront avoir l'impression de lire des biscuits chinois à perpétuité. OK? On s'entend, ça vous fait sûrement cet effet-là. Mais avec cette thématique, j'espère vous prouver que la Bible renferme une meilleure sagesse que les biscuits chinois. OK? Et je crois que ça ne sera pas très difficile parce que j'ai quelques exemples pour vous de messages dans les biscuits chinois qui nous font douter que des gens ont été payés pour écrire ça. Okay? J'en ai sélectionné quelques-uns. Donc, voici ma sélection des meilleurs messages de biscuits chinois que j'ai dénichés. Donc, premièrement, allons-y avec notre premier. Vous adorez la nourriture chinoise. Bravo, champion! OK, donc on vient de manger un repas dans un buffet chinois, donc bien sûr, vous adorez la nourriture chinoise, donc très perspicace. Numéro 2, vous pourriez assister à une fête avec d'étranges coutumes. Bon, OK, intéressant. Je dois vous avouer que la première fois que je l'ai lu, ben les premières fois même, je lisais costume, et je trouvais ça vraiment drôle. Si je l'avais écrit, j'aurais écrit avec d'étranges costumes. Il me semble que c'est juste excellent. Donc, OK, well, voilà. Peut-être cette semaine, ça va vous arriver. Numéro 3, notre dernier. Rien est certain. En plus, c'est tellement mal traduit. Rien est certain à part la mort et des impôts. OK, c'est très encourageant tout ça. Donc, on prend notre dernière bouchée, on lit notre petit biscuit chinois et puis bonne journée tout le monde, la mort et des impôts. C'est magnifique. Donc, entrons maintenant sur une note plus sérieuse. Le livre des Proverbes, OK, il est aussi très intéressant parce qu'en fait, il est écrit d'une façon un peu poétique, hein, toutes les petites phrases courtes, mais aussi la poésie qui est là. Et les auteurs vont utiliser beaucoup de contrastes et d'images, donc des métaphores, des images, pour qu'on comprenne en fait les vérités qui sont présentées. Et une image qui revient constamment, c'est la sagesse et la folie qui représentent deux femmes. Okay? Une femme qui représente la sagesse, une femme qui représente la folie. Et je suis certaine que plusieurs vous connaissez le fameux proverbe 31 sur la femme vertueuse, qui est souvent lue à la fête des mères. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Et c'est pas faux qu'on doit s'en inspirer en tant que femme. Mais en fait, cette femme-là est une représentation ultime de la sagesse. Quand on lit ce proverbe-là, ce chapitre-là, c'est magnifique de voir comment la sagesse est incarnée par cette femme-là. Et une autre image contrastante qui ressort souvent, c'est l'image des deux chemins. Deux chemins opposés, deux chemins qui vont dans deux directions différentes et qui mènent aussi à deux destinations différentes. Le chemin de la sagesse et le chemin de la folie. On est dans Proverbes 2, 9 à 20. Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège les sentiers de l'équité. Il veille sur le chemin de ses fidèles. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Ainsi, tu seras délivré de la voie du mal, OK, on a l'autre voie ici, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui éprouvent de la joie à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers tortueux et des routes pleines de détours. Tu seras délivré de la femme étrangère. OK, on a une image de la femme aussi qui revient ici, qui oublie l'alliance de son Dieu. En effet, sa maison penche vers la mort et sa route conduit vers les défunts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient ni ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi sur la voie des hommes de bien, tu persévéreras sur les sentiers des justes. Donc, vraiment la belle image ici, on voit les contrastes, tous les contrastes différents. On a aussi Proverbe 3:17 qui dit « Les voies de la sagesse sont des voies agréables. Tous ces sentiers sont des sentiers de paix. » Proverbe 3:23 « Tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacles. » Finalement, Proverbe 4:14-19, vous lirez, on le voit tout le temps dans tout le livre des Proverbes, « N'emprunte pas les sentiers des méchants. » Ne t'avance pas sur le chemin des hommes mauvais. Le pain qu'ils mangent, c'est la méchanceté. Le vin qu'ils boivent, c'est la violence. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fait trébucher. Deux chemins, deux directions, deux destinations qu'on a ici qui sont vraiment imagées. Et regardez sur la diapo ici, nous allons voir les contrastes entre ces deux chemins. Le chemin de la sagesse est un chemin d'équité, de justice et d'intégrité, tandis que le chemin de la folie, c'est le chemin de la perversité. Le chemin de la sagesse est droit, celui de la folie est tortueux. Le chemin de la sagesse mène vers le bien, celui de la folie vers le mal. Le chemin de la sagesse, c'est la paix et sécurité. Celui de la folie, c'est la violence. Dieu est un bouclier pour ceux qui marchent sur le chemin de la sagesse et les autres oublient l'alliance de Dieu. La sagesse, c'est le chemin de la lumière et de la vie. Et la folie, c'est celui des ténèbres et de la mort. Deux chemins, deux directions, deux destinations, vraiment contrastants. La sagesse ou la folie, la vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres, le bien ou le mal. C'est vraiment une image et qui est frappante quand même. Et si on regarde à la prochaine diapo, OK, avec un beau paysage d'un côté et la dévastation totale de l'autre, OK, je pense que personne se dirait « Oh, ma foi, j'aimerais aller me promener sur ce chemin dévasté où règne la mort au lieu d'aller vers le beau paysage en fleurs. » Vous êtes d'accord avec moi? Personne là, consciemment dirait « Ouais, ça a l'air le fun d'aller vers cet espace ténébreux. » La vie est une marche, mais personne ne veut prendre consciemment. Personne ne veut choisir consciemment le mauvais chemin. Le problème, c'est que les deux chemins ne sont pas aussi bien définis dans la vie que ça. Si on regarde la prochaine diapo, on voit qu'en fait, les deux chemins, ils se ressemblent. Et même parfois, le chemin du péché semble même beaucoup plus agréable. Ça pourrait être quasiment l'inverse. Ça paraît plus facile, plus attirant que le chemin de la sagesse. Souvent, le chemin aussi le plus large, hein, le plus attirant, c'est pas le bon chemin. Jésus a dit ceci, « Spacieux est le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais resserré le chemin menant à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » Comment faire alors pour discerner quel est le bon chemin à prendre? Bonne question, hein? Mais tout au long de la série, nous allons prendre ensemble le chemin de la sagesse. Le chemin de la vie. Nous allons voir justement les habitudes, les attitudes, les décisions qu'on doit mettre en place dans nos vies pour marcher sur le bon chemin de la sagesse et de la lumière. C'est à ça que ça sert la série. Et dans la vie aussi, c'est une petite parenthèse, on n'arrive pas à une destination par hasard. Okay? Si ça arrive quelque part, c'est parce que tu as suivi le chemin pour y aller. La vie est une marche et tu traces un chemin à chaque pas que tu fais en fait. Ta vie est le résultat de micro-décisions prises au quotidien, de mauvaises habitudes que tu décides de tolérer ou des bonnes que tu choisis de mettre en place. Ça t'est probablement déjà arrivé, OK, d'entendre une mauvaise nouvelle concernant peut-être quelqu'un qui passe à travers un divorce ou par exemple, quelqu'un qui est entré dans une dépendance ou qui a abandonné la foi et tu te dis « Ah, mais je suis pas surpris, c'est vraiment plate, ça me rend triste, mais je suis pas surpris. » T'es pas surpris parce que tu voyais la personne avancer, marcher vers cette destination-là, prendre des décisions une après l'autre qui mèneraient vers cette destination-là, en fait. Mais ce matin, en fait, en introduction à la série, nous allons prendre le premier pas sur le chemin de la sagesse. Okay, on fait seulement le premier pas aujourd'hui ensemble sur le chemin. Une des clés qui va te permettre de choisir le bon chemin, qui est de discerner quelle route prendre, quelle décision, quel choix prendre, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. À travers tous les livres de la sagesse, s'il y a bien une conclusion qui revient constamment, c'est celle-là. La crainte de l'Éternel est le premier pas sur le chemin de la sagesse. Proverbe 1:7, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Proverbe 9:10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Psaume 110:10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et à la toute fin du livre d'Ecclésiaste aussi, chapitre 12, verset 13, voici ce que dit l'auteur. Écoutons, il dit ça carrément, écoutons la conclusion de tout ce discours. Il termine son livre de cette façon-là. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Même dans Job, un de nos livres de la sagesse aussi, Job 28, 20 à 28, d'où vient donc la sagesse? Où est l'emplacement de l'intelligence? C'est Dieu qui en comprend le chemin. C'est lui qui en connaît le lieu. La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. OK, ça peut pas être plus clair, là. J'avoue que j'ai pas mal une couple d'arguments pour vous dire que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Deux chemins sont constamment mis devant toi et la crainte de l'Éternel te dispose et te prépare à choisir le bon chemin. Okay, la crainte de l'Éternel, c'est l'équipement que tu prépares pour partir en randonnée. Okay? C'est ça. Et il existe en fait deux types de personnes dans la vie, ceux qui voyagent léger et ceux qui partent avec comme quatre valises pour une fin de semaine. Est-ce qu'il y en a qui font partie de cette catégorie? Quelques-uns? Ah, oh, OK. Ah oh là là. Mais aujourd'hui, je vous encourage à ce qu'on voyage léger, en fait. On va voir que, imagine que ça, c'est la crainte de l'Éternel et on va faire du tri dans nos ménages, dans nos bagages, pardon. On va faire un beau tri et on va voir qu'est-ce qu'on doit mettre. Qu'est-ce qui fait partie de la crainte de l'Éternel et qu'est-ce qu'on doit retirer de notre bagage qui est inutile pour notre randonnée? Donc, ce matin, on part en randonnée. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? On va faire notre premier pas ce matin et on va faire le beau tri de nos bagages avant de partir. Prions ensemble pour que Dieu vienne nous parler. Seigneur, on veut venir avec humilité devant toi parce que on sait que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. C'est toi qui as la vérité, c'est toi qui es le chemin, Seigneur. Alors, on veut venir avec un cœur humble, avec un esprit ouvert, Seigneur, à ce que tu veux nous apporter dans ta parole. Et viens, Seigneur, sceller qu'est-ce qui est apporté, Seigneur, par ta parole ce matin. Seigneur, viens en voyant notre attitude, Seigneur, d'ouverture. Bien, viens nous récompenser, Seigneur, cette attitude par, justement, les vérités que tu vas mettre et faire émerger, Seigneur, dans nos cœurs et notre esprit, Seigneur. Sois glorifié ce matin. Amen. Pour développer la crainte de Dieu, la première chose dont tu as besoin, c'est de l'humilité. De l'humilité. À la place... Attends, qu'est-ce qui m'a pas là, hein? Voyons, à la place de l'orgueil, un talon haut pour partir en randonnée. Voyons, ça n'a pas rapport, ça. Mais non, t'as pas besoin de ça. Donc, l'humilité à la place de l'orgueil. Voici ce que tu as besoin dans ton sac de la crainte de Dieu. Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voyez-vous ici, dans ce verset-là, c'est comme si c'était synonyme. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et la définition du Larousse nous dit que l'humilité, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Et c'est impossible de ne pas réaliser à quel point on est des créatures fragiles hein, quand on se rend compte qu'après 3 jours, si on n'a pas bu d'eau, on meurt. C'est fou, on est dépendant à une chose si simple. On est vraiment fragile en tant qu'être humain, en fait. L'humilité, c'est réaliser ta place dans la création. Tu es une créature et Dieu est le créateur. Et des fois, on dirait qu'on a comme envie de nous-mêmes se placer à la place du créateur. L'humilité, c'est réaliser ton besoin de Dieu. Nous dépendons de lui comme de l'eau, nous dépendons de lui pour vivre parce qu'il est la source de la vie. Concrètement, comme ta bouteille d'eau dont tu as besoin tout au long de ta randonnée, tu dois sans cesse retourner boire à la source pour survivre. Consulter Dieu dans toutes tes voies, par la prière, par la lecture de la parole, avec tes frères et sœurs chrétiens aussi. Avoir l'humilité de dire à Dieu et aux autres, j'ai besoin d'aide, j'y arriverai jamais tout seul, j'y arriverai jamais sans toi, Seigneur. Et la société te dit que tu peux tout par toi-même, hein? T'es ton propre boss, c'est ton propre patron, mais la parole te dit que c'est quand tu es faible que tu es fort. Okay? C'est vraiment l'inverse total. C'est quand tu réalises que tu as besoin de Dieu dans ton cœur, que justement ton cœur orgueilleux peut fondre et s'ouvrir à lui. Et c'est pas facile, hein, parce que quand on est confronté à des frustrations ou des saisons d'attente, des défis, on devient comme impatient et on a envie de prendre le contrôle. Je sais pas pour vous, mais laisse-moi pas tout seul. Ici, en avant, on a envie de prendre le contrôle sur notre vie, sur nos défis, sur les situations. Et ça, c'est de l'orgueil, parce qu'en fait, on pense qu'on peut mieux gérer la situation que Dieu. Ouais, ça n'a pas d'allure. Quand on y pense rationnellement, ça ne fait pas de sens. L'humilité patiente dans la maladie, même si c'est difficile. L'orgueil se met en colère contre Dieu. L'humilité prie et demande conseil avant d'entreprendre un projet. L'orgueil pense tout savoir et voyage en solitaire. L'humilité prie pour comprendre la réaction d'une personne dans un conflit. L'orgueil ne se remet jamais en question. L'humilité, c'est réaliser ton besoin de Dieu et ta dépendance à Dieu chaque jour, qu'il est la source de la vie. Proverbe 3, 5, 6 nous dit « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, dans tous tes projets, dans toutes tes décisions, reconnais que tu as besoin de Dieu. Fais appel à lui par la prière. Il est là, il répond. La lecture de la parole. Considère les conseils de tes frères et sœurs en Christ. Et Dieu va préparer le chemin devant toi. C'est un peu comme quand tu marches en raquette dans la neige. Okay? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de la raquette. Souvent ici dans Charlevoix, on a vraiment des belles places pour le faire. Et moi, nous, on a un beau terrain, un beau grand terrain. On a la chance de pouvoir même avoir des sentiers de raquette donc sur le terrain. Et s'il y a un sentier, c'est parce que quelqu'un l'a tracé, hein, on s'entend-tu? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher dans un sentier, dans de la neige qui vient de tomber, qui n'a pas de sentier en fait. C'est difficile de tracer toi-même le sentier. Et parfois, on va en famille, on se promène sur nos beaux sentiers. Et s'il y a eu une belle bordée de neige, souvent, si on suit à la queue leu-leu, ben ça va être mon père qui va être en avant. Et là, on va suivre, on va marcher en raquette. Et puis, des fois, tu peux avoir l'impression, ben coudonc, ça va donc bien pas vite. T'es le dernier en arrière de la file. Ça va bien pas vite, c'est long. Là, je vais aller en avant, moi, je vais leur montrer. Bien, c'est là que c'est tentant, mais c'est là que tu te rends compte que si tu vas en avant, le sentier n'est pas aplani, puis c'est tough, OK? Inquiète-toi pas, tu vas te rendre compte que ça prend du temps. Quand tu marches dans un sentier qui est déjà tapé, c'est sûr que c'est facile. C'est sûr que c'est facile. Aie l'humilité de laisser Dieu marcher devant toi. De laisser Dieu prendre le contrôle, aplanir ton sentier. Et c'est juste bon. C'est juste merveilleux parce que c'est plus facile après, mais ça prend de la confiance, ça prend de l'humilité. Ça prend de l'humilité pour pas essayer de prendre les devants. Pose-toi la question ce matin, dans certains domaines de ma vie, est-ce que c'est Dieu qui est devant moi ou c'est moi qui est devant? Dans tes défis que tu essaies de gérer, tes conflits, tes projets, ton avenir, tes décisions, tes choix, qui est en avant? Qui a plané le plancher? Le sentier? Plancher? Je sais pas. C'est comme, oups, petite bulle, le sentier. Laisse Dieu tracer le chemin devant toi. Et oui, tu vas devoir être patient et humble. Avoir la foi parce que tu ne vois pas devant. Mais tu vas voir, c'est beaucoup plus facile de marcher derrière ton papa qui trace le chemin pour toi. Amen? Êtes-vous d'accord? Revenons au tri de nos bagages pour partir en chemin pour partir en randonnée sur le chemin de la sagesse. Donc, on a vu qu'on voulait l'humilité à la place de l'orgueil et nous voulons également le bien, une carte, plutôt que le mal. Voyons, un batteur à F, ça n'a pas rapport. Partir en randonnée avec ça, pas rapport. Mais non, on va y aller avec le bien. On part avec ça, c'est bien plus pertinent. La carte représente les chemins que Dieu trace devant toi. Tu as besoin de reconnaître que c'est Dieu qui définit les deux chemins. Ce qui est bien et ce qui est mal. Même si parfois, on va se l'avouer, ça fait pas notre affaire. Et même si parfois, ça semble vraiment pas faire du sens parce qu'on regarde tout ce que fait la société à côté, t'es comme, ben voyons, c'est comme un chemin complètement inverse. La société te dit comment gérer tes finances, comment consommer, comment te divertir, comment vivre ta sexualité. D'une façon qui est totalement contraire à la parole de Dieu. Mais il faut reconnaître que Dieu est plus grand que l'être humain pour définir ce qui est bien ou ce qui est mal. Et moi, ça m'apporte la liberté, ça m'apporte le soulagement de remettre ça entre les mains de Dieu. Même si ça semble étrange devant les hommes, devant la société. Et attention aussi au légalisme, je fais une petite parenthèse, qui définit lui-même ce qui est bien ou mal en condamnant les autres, qui ne vivent pas selon leurs standards, basés sur des principes qui souvent sortent du cadre biblique. Un chrétien ne devrait pas regarder des films ou écouter de la musique autre que de la louange. Un chrétien ne devrait pas porter de casquette ou jouer de la guitare électrique. Attention, hein? Derrière le légalisme se cache très souvent de l'orgueil. Un orgueil spirituel, soit en voulant montrer aux autres qu'on fait mieux les choses, ou aussi un orgueil qui dit à Dieu, ben moi, je sais que ma justice est plus grande que la tienne, en fait. Et qui rejette la grâce. Okay, donc, ça fait qu'on est loin de la crainte de Dieu quand on fait ça. Tu dois laisser Dieu, sa parole, fixer ce qui est bien ou mal, le laisser tracer les deux chemins. Mais après, ça serait comme bien aussi que tu prennes le bon. Okay? Donc, c'est bien c'est une chose d'avoir l'humilité d'ouvrir ta Bible pour dire, OK, ben, de consulter Dieu finalement pour un sujet, mais sinon de finalement refermer la Bible et dire, ben non, là, ça doit pas vouloir dire que je devrais pas travailler au noir ou je devrais pas rester fidèle à mon mari ou je devrais faire attention à la mésidence. Ben non, voyons, non, ça dit pas ça, là. Non, non, non. OK? Donc, c'est une chose de consulter Dieu, ben, c'en est une chose après de choisir le bien puis d'entrer dans l'obéissance. Et voyez ici le lien entre l'humilité et le bien. Okay, les trois choses qu'il y a dans notre sac aujourd'hui, c'est vraiment tout relié. C'est comme un peu les trois facettes de la crainte de Dieu. Ne te crois pas trop sage, humilité. Crains le Seigneur, écarte-toi du mal, Proverbe 3:7. En d'autres termes, aie l'humilité de consulter Dieu pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Crains le Seigneur, mais après, choisis la bonne voie. Choisis la bonne voie. Écarte-toi du mal, obéis. Proverbe 8:13 dit « La crainte du Seigneur, c'est détester le mal. » C'est fort, c'est fort. Rappelle-toi que les deux chemins que Dieu trace sont complètement opposés, en fait. Ils ne mènent pas du tout à la même destination. Ils ne se croisent jamais, ne sont jamais proches, parce que Dieu est trois fois saint. Le péché n'a rien à voir avec Dieu qui est parfait. Qui est bon. On l'a vu, les deux contrastes. C'est opposé. Et le chemin de Dieu et la lumière, ça chasse les ténèbres. Ça peut pas être à côté. Et certains essaient toujours de trouver la limite du bon chemin. Le plus proche du péché, tu sais, pour savoir le minimum peut-être qu'on peut faire pour Dieu et le maximum qu'on peut faire pour s'approcher du péché. Mais la vérité, c'est que les deux chemins ont rien à voir ensemble. Ils sont pas proches du tout. Que plus tu t'approches du péché en ouvrant ton cœur, ton esprit à ça, plus tu t'éloignes de Dieu, en fait, carrément. C'est ça, là. La crainte de Dieu, c'est détester le mal. C'est s'en écarter le plus possible. En termes plus concrets, là, pour craindre Dieu et détester le mal, voici deux étapes faciles que tu peux faire. Ben, non, pas facile. C'est pas facile du tout. Ce que je veux dire par là, c'est, sont simples à retenir, mais non, c'est pas facile. Qui est deux étapes. Première étape, mets en lumière le péché dans ta vie. Proverbe 4, 18, 19 nous dit « Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Son éclat grandit jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants ressemble aux ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fait trébucher. » Bien important de comprendre ça ici. Rappelle-toi que le chemin du mal est dans les ténèbres. Okay, imagine-toi marcher dans la forêt la nuit, ouf, déjà là, c'est pas rassurant, et sans lune, okay, sans rien, là, si t'as pas de lumière, c'est impossible de voir ce qui est mort ou ce qui est laid autour de toi, hein. C'est vraiment si quelqu'un allume les lumières. C'est en ouvrant les lumières que tu te rends compte de l'état des choses. Et moi, ça me fait penser à la fois où moi et Julien, on cherchait un camping sauvage, en fait, parce que dans un long voyage, on faisait du camping sauvage et chaque fois qu'il y avait des petits chemins sur notre route, chaque fois qu'il y avait des petits chemins et qui pouvaient peut-être mener à un spot de camping, donc on allait le regarder, voir, OK, ça, on peut-tu dormir là? Et on finissait par être assez difficile, donc non, ça, c'est trop proche de la ville, ça, c'est trop proche d'une maison, ça, c'est trop dans la forêt sauvage, ça, c'est pas assez intime. Ça, c'est trop, on est trop isolés. Donc, on venait vraiment, là, assez difficile, finalement. Et souvent, on commençait à chercher un emplacement avant 4 heures de l'après-midi et on pouvait en trouver, genre, à 7 heures ou 8 heures. Et là, cette fois-ci, il était 9 heures, OK? On avait décidé de faire beaucoup de routes 9 heures du soir. Donc, il faisait noir et on essayait de trouver un endroit. Et on pensait avoir vraiment trouvé un endroit parfait et on s'est dit, waouh, c'est parfait. Ça. C'était comme dans un petit rang, proche de la route, mais quand même à l'écart. Un petit rang, il y avait un petit bosquet d'arbres, il y avait une ferme un peu comme industrielle. Donc, on se sentait pas isolé, mais on se sentait vraiment intime à la fois. Donc, on se prépare, on installe la voiture, on se brosse les dents, on se met en pyjama et on s'endort paisiblement. C'était merveilleux. Et le lendemain matin, donc, maintenant, il y a de la lumière, je sors de la voiture, je fais un pas et je vois une carcasse, une carcasse, carrément un squelette de biche décédée. J'espère que c'était une biche, là. Mais bref, je vois une carcasse de même en sortant de la voiture près de la forêt. Disons que c'était un peu creepy, là. C'était pas l'idéal. Donc, est-ce que vraiment, on aurait choisi ce beau camping-là, si on avait vu si les lumières avaient été ouvertes? Peut-être pas. Notre emplacement de camping qui ressemblait plus à un cimetière, ouf, pas sûr. Donc, la première étape pour détester le mal, c'est de mettre en lumière le péché dans ta vie, parce que la lumière chasse les ténèbres. Jean 3, 19, 21 nous dit ceci. La lumière est venue dans le monde. Ici, on parle de Jésus. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. C'est sûr, on n'aime pas exposer nos fautes. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Je t'encourage à avouer tes torts. C'est vraiment la première étape, à confesser tes péchés à Dieu et aux autres aussi. Le secret peut-être que tu gardes dans ton cœur depuis trop longtemps, dis-le à ton conjoint et à ta conjointe. Au lieu de l'amertume que tu nourris envers quelqu'un, peut-être va voir la personne et demande-lui pardon de nourrir ces choses-là en toi. Va demander de l'aide pour ton problème de dépendance. Allume la lumière dans ta vie ce matin. Je t'encourage vraiment à le faire. Et après avoir mis la lumière sur ce qui était dans les ténèbres, la deuxième étape pour craindre Dieu et détester le mal, en fait, c'est de regarder devant toi. Regarde devant toi pour pas être tenté d'aller sur l'autre chemin. Proverbe 4, 25, 27 nous dit ceci. Que tes yeux regardent bien en face et tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Ne détourne et détourne ton pied du mal. Marche droit, face à la lumière, face à Jésus qui est au bout. Regarde devant toi, persévère sur le droit chemin. En d'autres termes, éloigne les sources de tentation dans ta vie. le plus possible pour t'éloigner du mal. Mets en place des habitudes qui t'éloignent du mal. Par exemple, demande à ton frère ou ton sœur d'être ton frère ou ta sœur d'être ton compagnon de redevabilité, un ami, quelqu'un de ta famille, d'être un compagnon de redevabilité, de pouvoir, que vous puissiez vous aider dans vos défis. Et c'est ce que font, par exemple, les alcooliques anonymes, hein, c'est vraiment inspirant. Ils ont tous un partenaire qu'ils peuvent appeler à n'importe quel moment s'ils sentent qu'ils vont sombrer, encore une fois. Faisons la même chose dans l'Église. Soyons ces personnes-là les uns pour les autres. Éloigne-toi le plus possible du mal aussi en instaurant des bonnes habitudes dans ta vie. C'est ça la sagesse. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est l'humilité plutôt que l'orgueil, le bien plutôt que le mal et la confiance plutôt que la peur. La confiance, une belle boussole ici. La confiance plutôt que la peur. La boussole représente en fait le fait que Dieu te donne seulement la direction, mais il ne te donne pas l'itinéraire pour te rendre. Presque tout le temps quand Julien et moi, on est en voiture et que je mets le Google Maps, que je mets le GPS, Julien, presque tout le temps, honnêtement, va remettre en doute le GPS. Et moi, à chaque fois, je vais dire... Mais non, voyons donc, fais confiance au GPS, hein. Il choisit toujours l'itinéraire le plus court. Il prend en compte, par exemple, le trafic, les travaux, etc. C'est toujours, je lui dis toujours, ben non, garde, on s'en fout, là. Fais confiance, c'est l'itinéraire le plus court. Mais j'avoue que j'ai des petits doutes. Quand on est rendu sur des chemins de terre battue à côté de l'autoroute, j'avoue que moi aussi, je commence à douter puis trouver ça louche, là. Où est-ce que ça m'emmène? Mais je me dis, oh, ben non, tu sais, ça doit être là le plus court, pareil, de toute façon. Craindre Dieu, c'est choisir la direction de Dieu en lui faisant confiance sur la destination. En croyant que le chemin étroit de la sagesse mène vers les bonnes choses. Même si Dieu te conduit dans des sentiers comme nous avec notre GPS, des sentiers vraiment étranges, ok, comme, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Des sentiers à contre-courant de la société, des sentiers qui te semblent interminables, des sentiers difficiles, escarpés. C'est pas un chemin facile. Jamais on a dit que c'était deux chemins qui étaient faciles. Puis les deux chemins ont des défis, hein. C'est pas un chemin facile, mais c'est le chemin de la vie. Fais-lui confiance et continue de marcher par la foi. Et lui, il sait exactement par où tu dois passer et pourquoi tu dois le faire. Lui, il connaît tous les détails autour. Il connaît les chantiers de construction, il connaît le trafic. Fais-lui confiance. Et c'est fou quand on lit ça, parce que le chemin de Dieu, on le voit, il est bon, c'est écrit partout. Proverbe, psaume 25, 12, 13. Quel est l'homme qui craint le Seigneur? Il lui enseigne la voie à choisir. Il reposera dans le bonheur. C'est un chemin de bonheur. Psaume 128, 1. Heureux! Quiconque craint le Seigneur et suit ses voies. Ecclésiaste 8, 12 va dire, « Je sais, moi, qu'il y a du bonheur pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Il y a du bonheur. Heureux celui qui marche sur ce chemin-là. » Et sur le coup, le droit chemin que tu prends semble peut-être pas très agréable. Marcher dans la sagesse, c'est difficile. Ça demande de la persévérance, de la patience, mais sois convaincu ce matin que c'est le meilleur des sentiers. C'est le meilleur des sentiers. Faire la volonté de Dieu, c'est la meilleure chose que tu peux jamais faire dans ta vie. Et si tu ne vois pas, si peut-être tu ne vois pas de résultats sur terre, je pense qu'il y a toujours des fruits avec n'importe quel défi qu'on vit. Mais si tu n'arrives peut-être pas à discerner exactement le résultat dans certains domaines de ta vie par rapport à des choses que tu as, des chemins que tu as pris qui étaient plus difficiles, des défis que tu as traversés, sache que Dieu, lui, te voit si tu as persévéré sur le bon chemin. Il te voit et il va te le rendre un jour. Il va te le rendre un jour. C'est ce que la parole nous dit. Waouh, il va nous le rendre. Quoi? Il va nous le rendre. C'est tellement, quel honneur! En restant sur le chemin de la sagesse, tu t'amasses des trésors dans le ciel. Peut-être que tu ne les verras pas sur terre, mais tu t'amasses des trésors dans le ciel. Craindre Dieu, c'est avoir confiance en lui, avec notre boussole. Mais ce n'est pas avoir peur de lui. Okay? C'est la confiance et non la peur. Oui, on a une pompe à vélo, pas rapport, non, pour ta randonnée. Mais non, la peur, mais ça, vidange. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Et c'est bizarre parce que craindre, hein, on pourrait avoir l'impression que ça veut dire peur, mais non, pas du tout. Craindre Dieu, c'est avoir confiance en lui, mais ce n'est pas avoir peur de lui. 1 Jean 4, 16, 18, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Pourtant, nous savons que Dieu nous pardonne et qu'il nous aime. Il est un bon papa. Et même quand, je dis pas si, même quand tu vas dévier du droit chemin parce qu'on est humain et ça nous arrive, tu n'as pas à avoir peur parce que Dieu va te pardonner. La crainte de Dieu te fait dire, OK, non, 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 je vais m'éloigner du mal. OK, non, je me repens, je vais mettre la lumière. Mais la crainte de Dieu te fait avoir confiance en Dieu et non, ne te fait pas avoir peur de Dieu parce que sinon, tu vas pas aller le voir, tu vas pas aller dans ses bras. Pourtant, il t'accueille les bras grands ouverts parce que c'est un Dieu d'amour qui pardonne. La crainte de Dieu aussi bannit la peur que tu pourrais avoir de lui, qui est pas selon la Bible. Mais elle bannit aussi toutes tes autres peurs. La crainte de Dieu bannit toutes tes autres peurs. Si tu crains Dieu, tu ne peux pas avoir peur de quoi que ce soit. Savais-tu qu'il est écrit dans la Bible « N'aie pas peur » 365 fois? C'est quand même pas pire, ça. À tous les jours, Dieu te dit « N'aie pas peur ». Psaume 112, 1-8 nous dit ceci. En terminant, les musiciens, vous pouvez me rejoindre. Psaume 112, 1-8 nous dit ceci. « Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Sa confiance est dans le Seigneur. Son cœur est inébranlable. Il n'a pas de crainte. Est-ce que tu veux être cette personne-là ce matin? Moi, je veux en tout cas. Waouh, quel beau psaume. La confiance en Dieu bannit la peur des événements, la peur de ne pas plaire aux gens, la peur de l'avenir, la peur de ne pas y arriver. La crainte. Quand on craint l'Éternel, on n'a peur de rien. C'est hot, ça, quand même. Quand on craint l'Éternel, on n'a peur de rien. Amen. En conclusion, ça peut peut-être paraître insurmontable comme défi de faire ce premier pas sur le chemin de la sagesse en choisissant l'humilité plutôt que l'orgueil, la confiance plutôt que la peur, le mal, le bien plutôt que le mal. Et aussi, peut-être que tu vois ce chemin-là comme étant bien trop difficile, que c'est vraiment un trop gros défi, que dans le fond, c'est comme un chemin qui monte vers une montagne, puis tu te dis, OK, ouais, non, j'y arriverai jamais. Mais tu sais quoi? Quelqu'un a déjà tracé le chemin pour toi. Encore plus, quelqu'un t'accompagne sur le chemin. Encore plus, quelqu'un est le chemin. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » À cause de Jésus, on peut espérer marcher sur la voie de la sagesse. À cause de Jésus, qui a déjà tracé le chemin par sa vie. En Jésus, par la force qu'il nous donne, par son esprit qui est avec nous, il est avec nous tous les jours sur ce chemin-là, nous pouvons persévérer sur cette voie seulement à cause de Jésus. Seulement à cause de Jésus. Jésus, il est la sagesse. C'est lui le chemin. Il est la sagesse. C'est lui le chemin. C'est lui qu'on voit au bout. C'est lui la lumière. Jésus, il est l'humilité. Jésus, il est le bien. Jésus, il est la confiance en Dieu. Il a eu parfaitement confiance en son Père. C'est seulement si on se fie à notre plus grand modèle qui est Jésus. C'est seulement si on se confie en lui, c'est seulement si on regarde à lui qu'on va être capable de marcher sur ce chemin-là de la sagesse. Moi, j'y arriverai pas. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Impossible. J'ai besoin de Jésus. C'est Jésus. C'est en Jésus que je vais pouvoir prendre ce chemin-là. Il est le chemin. Il est le seul chemin vers la vie. Le seul chemin vers la vie, vers la lumière, vers la sagesse. Le seul chemin, parmi tous les chemins que tu vois devant toi, parmi tous les chemins que le monde propose, Jésus est le seul chemin vers Dieu. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Je vais vous inviter à vous lever. Je veux faire deux appels ce matin. Premièrement, je veux prier premièrement pour ceux qui voudraient allumer les lumières dans leur vie ce matin, qui ont un péché qu'ils doivent confesser à Dieu, qui doivent se repentir, qui doivent s'éloigner du mal. Je veux prier pour ces personnes-là qui disent « Oui, je veux allumer la lumière dans ma vie ce matin. J'ai besoin de confesser qu'est-ce que je fais de pas correct devant Dieu. » Je veux aussi prier pour ceux qui réalisent leur besoin de Dieu, qui réalisent qu'ils ont besoin de l'humilité, qui ont besoin de craindre le Seigneur, qu'ils ont besoin d'aller à la source directement, de s'engager à lui faire confiance dans toute leur voie, à marcher sur le chemin de la sagesse par Jésus, en Jésus, avec Jésus. Prions ensemble. Seigneur, je te prie que tu puisses mettre la lumière dans la vie de chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Je te prie pour ceux qui garde des souffrances, des défis, des péchés, des choses qui sont mauvaises. Seigneur, convainc-les que ça les amène vers le chemin de la mort, Seigneur, que ça les détruit, que ce n'est pas bon pour eux, Seigneur. Viens les convaincre et qu'ils puissent choisir de faire lumière là-dessus, Seigneur, en te confessant, en pardonnant, en te demandant pardon, peut-être en confessant aussi à la personne qui est concernée, ou en prenant le temps de trouver quelqu'un à qui être redevable pour pouvoir confesser, pour pouvoir marcher dans ce défi-là, être accompagné par quelqu'un qui comprend, Seigneur. Je te prie pour de sonder les cœurs, Seigneur, pour voir, faire émerger qu'est-ce qui est noir dans nos vies, Seigneur, et mettre la lumière, que chacun d'entre nous, on puisse s'engager à ouvrir les lumières, Seigneur, à choisir le bon chemin, Seigneur. Convainc-les que tu es là, les bras grands ouverts, non pas avec condamnation. Non, c'est pas ce que ta parole dit, Seigneur. Tu nous accueilles parce que tu es un Dieu d'amour. Là où tu es, il y a l'amour, Seigneur. Tu regardes tes enfants, les bras grands ouverts pour qu'ils reviennent en courant vers leur bon papa. Seigneur, qu'ils puissent avoir cette image dans leur cœur, dans leur esprit, que tu es un bon papa, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur de toi. Seigneur, viens transformer, viens mettre la lumière sur l'image qu'on peut avoir de toi, Seigneur, de bon papa. Malgré s'il y a eu des pères qui ont été mauvais, qui ont blessé, si certains ont eu peur de leur père, Seigneur, viens transformer cette image et mets la tienne à la place. Seigneur, nous voulons te dire aussi, on te fait confiance, on te redonne. On comprend, Seigneur, nos manquements, nos faiblesses, Seigneur. On comprend que nous avons besoin de toi, que nous devons dépendre de toi, Seigneur. Fais qu'on puisse vraiment s'adonner à toi complètement, qu'on puisse considérer, Seigneur, notre besoin à chaque jour. Dire oui, j'ai besoin de toi. Encore, encore, encore. Retourner à la source avec humilité pour dire oui, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas capable sans toi, Seigneur. Ah oui, sois glorifié. Viens par ton esprit, Seigneur, nous remplir d'une crainte de toi qui est sainte, qui est saine, Seigneur, qui est selon ton cœur, Seigneur. Sois glorifié ce matin. Amen.